Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit de Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme, on va s'intéresser à la commission électorale australienne. C'est un peu le gendarme des élections en Australie. Justement, on va s'intéresser à comment elle va organiser ses élections fédérales, sachant qu'il existe toujours un certain nombre de restrictions liées au Covid. On va aussi parler de cette élection sous l'angle économique avec Nicolas Perpich. Il va revenir notamment sur les fortes attentes de la population en matière de pouvoir d'achat. En fin d'émission, enfin, on va parler des communautés aborigènes et plus précisément des super autoroutes que ces derniers empruntaient il y a des milliers d'années pour se déplacer à travers tout le continent. Ces itinéraires ont été mis au jour par des scientifiques, parmi lesquels le professeur Corey Bradshaw. Il répondra aux questions de notre collègue Bertrand Tungandamé. Et puis, comme toujours, on fera un point sur l'actualité sportive, mais tout de suite, c'est l'heure du journal. À la une de l'actualité, ce jeudi 12 mai 2022. En Australie, le ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud annonce le déploiement d'un réseau de stations de recharge de voitures électriques. En Ukraine, les Russes se heurtent à la détermination de l'armée ukrainienne, mais aussi de celle des simples civils engagés à repousser leurs envahisseurs. On ira ainsi à la rencontre de pilotes de drones qui causent beaucoup de tracas à l'armée russe. Et puis enfin, dans les territoires palestiniens, beaucoup d'émotions aujourd'hui après qu'une journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akla, a été tuée d'une balle dans la tête durant un reportage en Cisjordanie hier. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud vient d'annoncer le financement d'une première station de recharge de véhicules électriques située dans le quartier de Pyrmont à Sydney. D'après Matt Kean, le ministre de l'Environnement de l'État, cette première station de recharge servira de modèle au déploiement de tout un réseau de stations de recharge à travers l'ensemble de la Nouvelle-Galles du Sud.
I want to see New South Wales be the best place to drive and to run an EV, and that's why we've got a number of policies in place that will see us lower the cost of EVs and also ensure that you can get them on the road as soon as possible, which is exactly why we're rolling out this program to upgrade buildings and apartment blocks right across New South Wales to ensure that they're ready for the EV revolution which is coming.
Les autorités viennent de publier un rapport préliminaire concernant le crash d'un hélicoptère survenu au mois de mars dernier près de Mount Disappointment dans l'état du Victoria et à l'issue duquel 4 passagers sont morts ainsi que le pilote. D'après Angus Mitchell, le commissaire de l'Australian Transport Safety Bureau, l'autorité en charge donc de l'enquête, ses premiers éléments d'information commencent à dessiner une image plus précise de ce qui a pu se passer.
The two helicopters were flying under visual flight rules, that is, flying using visual references rather than instruments. As they approached Mount Disappointment, the pilot of the first helicopter, some 3 kilometres ahead of the second, reported entering increasing cloud cover and broadcast to the other pilot their intention to turn around. Prior to the accident, flight track data showed the second helicopter conducting a left descending turn.
Et dans le Queensland, la police a arrêté un homme suspecté de trafic de drogue et ce, dans le cadre d'une enquête commencée il y a à plusieurs milliers de kilomètres de là. Il s'agissait d'une enquête sur la mort d'un plongeur sous-marin dont le corps a été retrouvé en début de semaine, chargé de 54 kilos de cocaïne à proximité du port de Newcastle. Des détectives en charge des affaires de crimes organisés ont donc placé en garde à vue un homme de 62 ans alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion à destination de Singapour. Il a été mis en examen pour l'importation de grandes quantités de stupéfiants. Les 54 kilos de cocaïne retrouvés lundi avec ce plongeur décédé ont une valeur estimée de 20 millions de dollars. Au 78e jour de la guerre en Ukraine, un responsable pro-russe de la ville de Kherson, à l'est du pays, à proximité de la Crimée, a affirmé que la région s'apprêtait à réclamer son annexion par la Russie. En revanche, dans la ville de Kharkiv, au nord-est du pays, les forces ukrainiennes disent avoir fait reculer l'armée russe. En tout cas, la plupart des experts ne s'attendaient pas à ce que les Ukrainiens tiennent aussi longtemps face aux Russes. Et l'une des raisons à cette résistance, eh bien, c'est le nombre important de civils qui ont répondu à l'appel de leur président, Volodymyr Zelensky, et qui sont entrés donc en résistance. Parmi ceux-ci, l'un des groupes les plus connus est composé de pilotes de drones, mais aussi de passionnés de nouvelles technologies. L'un de leurs principaux faits d'armes, c'est d'avoir abattu un char russe à l'aide d'un drone qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Muriel Paradon et Sami Bourhelifa, envoyés spéciaux de RFI en Ukraine, les ont rencontrés.
En une fraction de seconde, le drone décolle. Aux commandes,
Father of drone.
Le père des drones, autrefois prêtre.
J'ai toujours été proche du ciel.
Au sens spirituel comme au sens propre, plaisante Vadim. Passionné de photographie, il construit son premier drone pour prendre des clichés aériens. En 2014, la guerre du Donbass éclate en Ukraine. Il met son savoir-faire au service de l'armée. Depuis, il ne cesse de développer des petits avions télécommandés.
Nos drones sont très efficaces car ils sont très précis. En emportant seulement trois petites charges explosives, le drone peut détruire un gros char. Nous utilisons des bombes qui datent de l'époque soviétique. Elles ne nous coûtent presque rien. Pour un dollar investi dans mon équipement, je détruis l'équivalent de 10 000 dollars d'armement russe.
Léger, maniable, le drone de Vadim pèse 5 kilos. 300 mètres d'altitude, 10 km de portée. Une arme d'attaque redoutable qui a stoppé net l'avancée des troupes russes vers Kiev.
Sur le terrain, les Russes changeaient rapidement de position, mais grâce à nos drones, nous pouvions traquer leurs déplacements. Sans les drones, nous aurions eu beaucoup plus de soldats ukrainiens tués.
Pas question pour Vadim de révéler le nombre de drones dont dispose l'unité Aero-Rozvidka. Mais il l'assure, l'ensemble du territoire ukrainien est couvert. Sami Bourhelifa, Muriel Paradon, Kiev, RFI.
Aux États-Unis, les démocrates ont tenté et échoué à faire adopter une loi au Sénat visant à rendre l'avortement légal. Ça n'est à vrai dire pas vraiment une surprise dans la mesure où les démocrates sont en minorité à la Chambre haute. Il s'agissait là plus d'un vote symbolique destiné à faire pression sur la Cour suprême dont on a appris il y a quelques jours qu'elle s'apprêterait à annuler une décision qui, dans les faits, avait rendu l'avortement légal en 1973. À l'issue de ce vote manqué, la vice-présidente Kamala Harris a pris la parole et rappelé que la majorité des Américains sont favorables au droit à l'avortement et qu'ils doivent le faire savoir lors des prochaines échéances électorales.
This vote clearly suggests that the Senate is not where the majority of Americans are on this issue. A priority should be to elect pro-choice leaders at the local, the state and the federal level.
États-Unis toujours, un rapport du département des affaires intérieures révèle l'un des aspects les plus sombres de l'histoire américaine. Ce rapport révèle en effet qu'au moins 500 enfants amérindiens sont morts alors qu'ils étaient intégrés de force dans des pensionnats entre le 19e siècle et les années 60. Ainsi, plus de 400 écoles ont été identifiées ainsi qu'une cinquantaine de charniers. Des révélations qui ont profondément troublé Deb Hallan. Elle est elle-même d'origine amérindienne et membre du département de l'Intérieur. Elle estime que le sort subi par ses enfants est également une blessure profonde pour les familles auxquelles ils ont été arrachés.
Each of those children is a missing family member, a person who was not able to live out their purpose on this earth because they lost their lives as part of this terrible system.
À Ramallah, dans les territoires palestiniens, des centaines de personnes se sont rassemblées pour honorer la mémoire de la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akla, tuée hier d'une balle dans la tête alors qu'elle était en reportage en Cisjordanie pour couvrir une opération de l'armée israélienne. La chaîne Panarabe, pour laquelle elle travaillait depuis 25 ans, accuse l'armée israélienne de l'avoir abattue de sang-froid. Les Nations Unies, pour leur part, demandent l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante pour en savoir plus sur les circonstances de son décès. Mais pour Christophe Deloire, le directeur général de Reporters sans frontières, la mort de Shirin Abu Akla est surtout un signe de la dégradation de la liberté de la presse dans les territoires palestiniens.
Il y a quelques jours, nous avons publié notre classement mondial de la liberté de la presse et la Palestine y perdait 38 places, c'est-à-dire vraiment dans les tout derniers pays. Cette dégradation, elle est due à des facteurs proprement palestiniens, mais aussi, évidemment, aux interventions israéliennes, aux tirs délibérés. Dans 4 jours, ça fera exactement un an qu'une tour de télévision a été bombardée à Gaza, une tour qui abritait notamment les bureaux de la chaîne Al Jazeera, au prétexte que des terroristes s'y seraient trouvés, mais les autorités israéliennes savaient pertinemment qu'il y avait là des bureaux, qu'il y a une forme d'accumulation. Donc on ne peut prendre les propositions ce matin des autorités israéliennes, du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid, d'une commission d'enquête conjointe, qu'avec une très grande circonspection, qu'avec beaucoup de prudence, parce que malheureusement, les autorités israéliennes, au fil des dernières années, elles n'ont pas montré de très bonnes intentions, au contraire, s'agissant des journalistes en Palestine.
C'était donc le directeur général de RSF qui répondait aux questions de Vincent Souriot pour RFI. À l'autre bout du monde, à New York, les Nations Unies discutent en ce moment de la question de la prolifération nucléaire et notamment des tirs de missiles et des menaces régulièrement proférées par la Corée du Nord. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU estiment que l'invasion russe en Ukraine a créé un terrain favorable pour le dictateur Kim Jong-un afin de poursuivre ses projets de développement militaire, mais aussi accélérer ses tests de missiles. D'après plusieurs analystes, la Corée du Nord cherche ainsi à asseoir son statut de puissance nucléaire pour ensuite pouvoir négocier avec les États-Unis la levée des sanctions économiques qui frappent ce régime. Une stratégie risquée, d'après Barbara Woodward, la représentante permanente du Royaume-Uni à l'ONU, pour qui cette course à l'armement menée par Pyongyang représente d'abord et avant tout une menace pour la sécurité de la région.
This year alone, as we've heard, North Korea has launched 17 ballistic missiles, each in violation of UN Security Council resolutions. In the whole of 2021, North Korea conducted 8 missile tests. So let's make no mistake about the escalation in tempo and missile capability that these 17 launches represent.
En France, la nouvelle alliance de la gauche, emmenée par Jean-Luc Mélenchon, est confrontée à sa première polémique. L'un de ses candidats, le journaliste militant Taha Bouafs, avait annoncé lundi qu'il se retirait de la course aux législatives. Il était candidat dans le département du Rhône, expliquant sur les réseaux sociaux qu'il ne supportait plus les attaques racistes et le harcèlement que lui auraient infligé ses opposants. Mais hier, il a été révélé dans la presse qu'il est sous le coup de plusieurs accusations de violences sexuelles. Il est accusé par au moins 3 femmes différentes de violences sexuelles. On écoute Aurélien Devernoy de RFI pour en savoir plus sur cette affaire.
Le dossier aurait dû rester confidentiel et cela aurait bien arrangé les dirigeants insoumis. Après une journée passée à vilipender politique et médias pour avoir eu raison de la patience de Taha Bouafs, ils ne peuvent que constater les dégâts. À la suite des informations publiées par Mediapart et BFM, le comité de suivi des violences sexuelles et sexistes de LFI a reconnu qu'un témoignage accusant le journaliste et militant antiraciste a bien été reçu samedi dernier et qu'à l'issue d'une audition lundi, il a été signifié au candidat qu'il risquait de ne pas être investi au vu de la gravité des faits reprochés. Dans la foulée, Taha Bouafs jette l'éponge, mais sans évoquer le sujet. Jean-Luc Mélenchon, qui avait dénoncé la meute s'acharnant contre le jeune homme et regrettant de n'avoir pas su le réconforter, explique désormais n'avoir pas été au courant des accusations pesant sur Taha Bouafs. Reste que la page a été très vite tournée. Dès mardi soir, un nouveau candidat insoumis a été désigné. Un enchaînement qui laisse dubitatif au Parti communiste qui souhaite toujours récupérer l'investiture de l'Union des Gauches dans la circonscription concernée.
Et on jette maintenant un œil à la météo de ce jeudi en Australie. Alors, si vous avez l'impression que c'est humide là où vous êtes, rassurez-vous, c'est le cas pour à peu près tout le monde aujourd'hui. Par exemple, à Perth, où il ne fait que 18 degrés. À Adélaïde, des nuages et 20 degrés prévus. Quelques averses aussi à Melbourne, 19 degrés au thermomètre, 23 degrés et des fortes pluies aujourd'hui à Sydney. Temps humide également à Brisbane où il fait 24 degrés, 30 degrés à Cairns et jusqu'à 32 degrés à Darwin aujourd'hui. Libre, c'est le nom du morceau qu'on vient d'entendre, le nouveau titre de la chanteuse belge Angèle. Tout de suite, on passe au magazine des sports, il est présenté par Jean-Noël Ducasse.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le foot. Le Celtic Glasgow en Écosse remporte le championnat de 2022 à l'issue de la 37e journée. Bel exploit pour leur entraîneur, l'Australien Ange Postecoglou. La finale de la Coupe d'Italie a été remportée par l'Inter Milan contre la Juve de Turin après prolongation 4-2. Ligue 1 en France avec la victoire de Nice hier contre Saint-Etienne 4-2. Marion Kazanov. RFI.
À l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Les Niçois étaient menés 2-0 à la pause. Mais le jeune défenseur Jean-Clair Tobido a su remettre son équipe sur les bons rails à la mi-temps.
Je pense que la première mi-temps, il y avait encore les séquelles un petit peu de la finale. À la mi-temps, on s'est rentré un peu dedans. J'ai pris la parole pour remobiliser un petit peu mon équipe parce que une équipe qui prétend pouvoir jouer l'Europe et qui flanche sur le 18e de Ligue 1. C'était clairement pas normal. Et on est rentré sur le terrain en seconde période avec notre mentalité. Je pense que ça s'est vu. On sort de cette deuxième mi-temps à 4 buts et ça fait longtemps qu'on n'avait pas marqué autant.
Jean-Clair Todibo au micro de nos confrères Prime Vidéo.
Et dans l'autre match, Nantes s'est imposé contre Rennes 2-1. La Confédération européenne de foot se réunit à Vienne depuis mardi et il est aussi question de réforme de la Ligue des champions, entre autres, comme nous l'explique Olivier Pron pour RFI.
L'instance fêtière du foot européen espère la mettre en place pour la saison 2024-2025, une réforme de la reine des compétitions de clubs qui ne fait pas l'unanimité mais qui est censée allécher les diffuseurs, bien sûr, donc les payeurs. Avec 4 clubs et 100 matchs supplémentaires présentés il y a un an déjà, cette réforme radicale a été éclipsée un temps par l'éphémère projet de Super League, soutenu par quelques formations huppées et mutines, les riches anglaises et espagnoles notamment. Cette réforme de la C1, comme on l'appelle, propose le passage de 32 à 36 clubs qualifiés et le remplacement des 8 poules de 4 actuelles par un mini-championnat au sein d'un tableau unique qui ferait que chaque équipe disputerait non plus 6 mais 10 rencontres minimum. Cela signifie qu'il y aurait 225 matchs au total au lieu de 125 aujourd'hui, des affiches prestigieuses, plus fréquentes et qui dit plus de matchs et d'affiches dit forcément plus de recettes. Un timing qui peut surprendre alors que l'on vient d'assister à des demi-finales époustouflantes dans cette Ligue des Champions avec une dramaturgie totalement liée à des rencontres couperets. Le projet d'Alexander Seferin, patron de l'UEFA, irait lui dans le sens d'une finale à 4 dans une même ville.
La lutte pour le titre en Angleterre au top, Manchester City s'est imposé contre Wolves hier 5-1 et prend 3 points d'avance sur Liverpool qui était passé provisoirement à la tête du classement mardi après avoir battu Aston Villa 2-1. En Centrafrique, la fédération de foot est à la recherche de nouveaux talents. Reportage de Rolf Estève de Mialeux pour RFI.
Composé de 10 membres, ce comité est constitué d'anciens footballeurs, de cadres de la fédération et de journalistes sportifs basés en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. Chacun aura pour mission de détecter des joueurs binationaux et de la diaspora et de les persuader de rejoindre les différentes catégories de l'équipe nationale centrafricaine. Ceci en vue de la CAN 2023 et même au-delà. Célestin Yanindi, président de la fédération.
L'objectif de ce comité de détection, c'est de travailler à identifier les joueurs centrafricains, quel que soit leur niveau, leur catégorie d'âge, et d'en informer la Fédération centrafricaine de football pour un suivi. Les meilleurs, ensuite, pourront être appelés dans les sélections nationales.
Alors que ce comité peut déjà se réjouir de la décision de l'attaquant du FC Metz, Louis Mafuta, de continuer avec les fauves du Bazoubongui malgré ses récentes hésitations, il aura toutefois un très gros travail de persuasion à effectuer pour espérer enrôler de nouvelles recrues. Après avoir accepté de représenter la République centrafricaine en 2018, le milieu de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia, a en effet claqué la porte de la sélection il y a quelques mois. C'est lui qui était en effet le capitaine à critiquer les mauvaises conditions dans lesquelles évoluent les joueurs. C'est donc un défi pour ce pays qui ne s'est jamais qualifié à une phase finale de la CAN.
Et puis l'affaire de racisme dans le foot, ça s'est passé le week-end dernier en Bulgarie concernant un joueur sénégalais, Christian Gomis. Reportage Martin Guez pour RFI.
On joue les arrêts de jeu entre Plovdiv et l'Arda Kardjali. Le défenseur sénégalais Christian Gomis monte sur un dernier corner dans une ambiance électrique.
Ce défenseur, Petko Ganev, il est en train de se pousser avec mon collègue. Moi, je suis intervenu pour calmer la chose un peu. Et il y a Petko Ganev qui vient vers moi et qui me dit en gros, pars, sale singe. Sur le moment, j'ai cru être fou, quoi. Je lui ai demandé de répéter, il me l'a répété. L'arbitre, il est arrivé et je lui ai expliqué la situation. L'arbitre, il m'a dit que c'était rien du tout, qu'il fallait jouer.
Rien n'est signalé selon les arbitres. Le Dakarois raconte alors son histoire sur les réseaux sociaux et reçoit un large soutien, notamment du capitaine de l'équipe nationale sénégalaise, Kalidou Koulibaly.
Franchement, c'est important. Ça m'a fait plaisir quand j'ai vu son tweet parce que dans les moments comme ça, je trouve que c'est important d'en parler, qu'il ne faut pas fermer les yeux là-dessus et qu'il faut qu'on se soutienne et pour avancer, pour plus que ça se reproduise.
Kalidou Koulibaly, lui aussi victime de racisme dans sa carrière en Italie. Christian Gomis, 23 ans, est formé au PSG et lui dégoûté et songe à changer de club.
Première fois qu'on me dit ça personnellement, oui, mais après dans les tribunes, quoi, c'est pas la première fois que j'ai entendu. Donc, directement comme ça, oui, c'est la première fois. Vis-à-vis d'un joueur, oui. Ça laisse à réfléchir. Surtout que je suis en fin de contrat cet été, quoi. Ça me donne pas envie de rester ici, franchement.
Ici ou ailleurs, les instances du football restent sans solution miracle face à ces événements malheureusement récurrents.
On passe au cyclisme, le Giro d'Italia, la 5e étape remportée par Arnaud Démare, le Français. On l'écoute.
C'est clair que je suis super content de gagner comme ça sur le Giro, ma première de l'année. C'est une journée difficile. Finalement, le sprint s'est bien passé. C'était plutôt fluide pour moi, même si je pense que de l'extérieur, ça paraissait très houleux. Mais voilà, les mecs ont fait un super boulot. J'ai été patient pour lancer le sprint, donc je suis super content.
Juan Pedro Lopez conserve le maillot rose de leader. Il possède 39 secondes d'avance sur Lennard Kamna. Et n'oubliez pas, le Giro, c'est sur la télé SBS tous les soirs. Un mot de tennis à Rome, les Masters 1000 et la bonne entrée pour Rafael Nadal contre John Isner, l'Américain. Eric Mamrut, RFI.
Le Majorquin n'a pas eu besoin de forcer son talent pour dominer le très pâteau géant américain John Isner. Succès 6-3-6-1 pour Rafael Nadal qui affrontera demain en huitième de finale le fougueux canadien Denis Shapovalov. Beaucoup plus difficile aura été la qualification de Stefanos Tsitsipas. Le grec a dû sauver deux balles de match pour se défaire du bulgare Grigor Dimitrov. Victoire 6-3, 5-7, 7-6 pour le vainqueur du récent Masters 1000 de Monte Carlo. Ça passe encore pour le numéro 3 mondial Alexander Zverev. Défaite en revanche pour le petit argentin Diego Schwartzmann. Chez les dames, Hans Jaber poursuit sur sa lancée. La tunisienne lauréate du tournoi de Madrid dimanche est en huitième de finale après avoir dominé l'australienne Alia Tomljanovic 7-5-6-2. Autre qualifiée, Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, Maria Sakkari, Bianca Andreescu, la canadienne et Victoria Azarenka, la biélorusse.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Mélange les chauves, les franges, douce.
Douce France est le nom du morceau qu'on vient d'écouter et il est interprété par un artiste qui s'appelle lui Le Noiseur. 13h29 sur SBS, on passe maintenant au journal de l'économie en Australie.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Les élections fédérales se tiendront dans un petit peu plus d'une semaine. Quel est le sentiment des Australiens en ce moment concernant l'économie ?
Là, on a vu récemment le taux d'intérêt qui vient de monter, le taux d'inflation qui monte, ce qui veut dire que, en fait, le prix des choses monte aussi, le coût de la vie devient plus cher. Et là, il y a eu un sondage de 1200 personnes, des questions sur leurs sentiments comme consommateurs. Ça s'appelle le Consumer Confidence Index. Ils ont trouvé que ça vient de chuter jusqu'à son plus bas niveau qu'on a vu depuis août 2020. Donc, c'est tombé par 5,6% jusqu'à 80,4 points en mai. Mais bon, ça a été fait quand même pendant la semaine où la Banque centrale a augmenté le taux d'intérêt par 25 points jusqu'à 0,35%. Donc, c'est pas tout à fait étonnant parce que ça, c'était assez remarquable. Puis en plus, la banque, il dit que ça va continuer à monter le taux jusqu'à peut-être à peu près 2,5%. Alors, c'est pas surprenant non plus que cette question des prix, du coût de la vie, c'est devenu central aux élections, central au débat entre le Premier ministre Scott Morrison et le leader des travaillistes, Labour, Anthony Albanese. On a vu ça pendant les débats. Et puis là, on a vu que M. Albanese, il a beaucoup attaqué le gouvernement sur ces questions. Ils disent que c'est eux qui sont responsables après tant d'années au gouvernement. Et en fait, cette semaine, M. Albanese, il a dit qu'il soutenait l'idée de lever le salaire minimum par 5,1%, soit le même taux que le taux d'inflation, parce qu'il a dit que c'était nécessaire pour empêcher que les gens aillent en arrière, en effet. Alors, depuis ça, le gouvernement s'est complètement lancé et l'a attaqué sur ce point-là. Ils l'ont accusé d'être complètement imprudent, d'être « reckless », ils ont dit, et de vraiment pas comprendre comment l'économie marche. Ils disent que ça serait un énorme risque à l'économie de faire ça, de lever les salaires minimums par 5,1%, parce que ça ferait monter en flèche l'inflation, les taux d'intérêt. Les employeurs ne pourraient pas payer cette augmentation de salaire parce que eux-mêmes ils sont sous beaucoup de pression aussi. Donc Monsieur Albanese, lui, il a contre-attaqué. Il a dit que bien sûr les travailleurs moins payés devraient recevoir des salaires qui montent en même temps que le taux d'inflation parce que ça fait très longtemps que les salaires ne monte pas du tout, ou presque pas, sous le gouvernement de M. Morrison. Donc voilà, un débat très intense là sur cette question centrale économique, sur comment les gens peuvent payer pour l'essence, payer pour aller au supermarché, etc. Donc des trucs vraiment de base, des trucs très importants. Et voilà, il y a les électeurs, les voteurs qui vont décider le 21 mai lequel entre ces deux partis mérite de guider l'économie pour les prochaines années ici en Australie.
Et puis, Nicolas, cette nouvelle que les gouvernements autour de l'Australie sont en train d'imposer des nouveaux impôts pour les voitures électriques.
Oui, tout à fait. Donc, on a vu le prix de l'essence qui est monté très haut récemment avec la guerre en Ukraine, etc., et le gouvernement fédéral qui a agi pour couper le petrol excise, le taxe sur les impôts, sur l'essence. Mais en même temps, ça a fait penser à beaucoup de gens. Peut-être c'était le temps de s'acheter une voiture électrique, un vélo électrique, parce qu'une fois, que c'est installé, c'est beaucoup moins cher, bien sûr. On n'a pas besoin d'acheter d'essence. Ça marche sur l'électricité, le soleil, peut-être. Donc, le problème pour les gouvernements, c'est que, bien sûr, ils ont besoin de payer pour la construction, le maintien des routes. Et donc, on a vu là qu'il y a Il y a plusieurs États, comme la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, l'Australie du Sud, l'Australie occidentale, qui ont annoncé des frais pour que les voitures électriques utilisent les routes. Donc, c'est un peu la même chose dans tous les États. C'est à peu près 2,5 centimes pour chaque kilomètre de voyage pour ces voitures électriques et 2 centimes pour chaque kilomètre de voyage pour les voitures hybrides. C'est quelque chose qui pourrait donc remplacer le petrol excise, cette taxe sur l'essence, parce que bien sûr, les gens qui conduisent des voitures électriques ne payent pas de taxe sur l'essence, qui est une énorme source de revenus. Alors, ça veut dire que, par exemple, si on roule 1000 km, il faudrait payer $25 d'impôts ou de frais pour rouler avec une voiture électrique, ce qui est quand même beaucoup moins qu'on paye en ce moment quand on achète de l'essence. Donc, les gens avec des voitures électriques seraient quand même en avance. Mais en même temps, les gouvernements offrent des incentives pour que les gens achètent plus de voitures électriques. Il y a des rebates, des rabais de plusieurs milliers de dollars pour une voiture d'habitude en dessous de $70,000, donc pas nécessairement une Tesla, mais peut-être une autre marque de voiture, et avoir moins d'inquiétude autour du prix de l'essence, qui est là, on a vu, commence à remonter, qui va dépasser les $2 le litre, encore une fois, malheureusement.
Merci, Nicolas, pour cette analyse de l'économie australienne. À bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Marcher dans Paris et marcher avec toi. Marcher dans Paris la nuit, le froid, j'adore ça. Marcher dans Paris et marcher jusqu'à toi.
Le groupe qu'on vient d'écouter s'appelle Paris Combo et ce morceau s'intitule « Scène de la vie parisienne », scène S-E-I-N-E. On va revenir maintenant en Australie pour vous expliquer comment la commission électorale se prépare à cette élection fédérale, une élection qui, à bien des égards, sera très différente de toutes les précédentes.
Les élections fédérales de 2022 sont considérées les plus complexes et les plus difficiles sur le plan logistique de l'histoire australienne. La Commission électorale australienne déclare qu'elle est entièrement préparée, dotée d'un centre de commandement à la pointe de la technologie pour se protéger contre toute perturbation. Un dossier de SBS News. Pour la toute première fois, la Commission électorale australienne a créé un hub en informatique où des équipes de son personnel surveilleront les données de Covid-19 et les épidémies de coronavirus en temps réel. Et ces équipes suivront les camionnettes Australia Post afin qu'aucun vote par correspondance ne soit oublié. Brian Fu, du centre de commandement AEC, dit qu'ils reçoivent des mises à jour en direct de différents ministères.
This provides us a live set of data feeds to show natural impacts into our events, and we also receive feeds on here around demonstrations and other events from the Department of Home Affairs.
Pendant la campagne électorale, le personnel est renforcé avec le soutien de la police fédérale et des agences de renseignement du pays. Il existe également des équipes chargées de démystifier la désinformation et de contrer d'éventuelles cyberattaques. Leur tâche: protéger le système électoral démocratique en Australie. Ce seront les élections les plus chères de l'histoire, avec un coût de plus de $400 millions, et c'est environ $100 millions de plus que lors des dernières élections fédérales de 2019. Le commissaire électoral Tom Rogers déclare que c'est en grande partie dû à la pandémie de Covid-19.
34,000 litres de cleaning fluid, 63,000 litres of hand sanitizer. We normally use 100,000 pencils, this time 4.5 million pencils because of the requirement to sanitize. So everything from simple through to strategic, it's going to be slightly different.
Les protocoles signifieront des temps d'attente plus longs pour voter et la commission électorale affirme que ses recherches ont révélé que de nombreux électeurs australiens détestent cela. Tom Rogers déclare que plus de gens se tournent vers le vote postal ou le vote anticipé.
The more votes there are in envelopes, postal votes, if there are a larger number of close seats, we have to wait for 13 days after the election for postal votes to come back. It might mean that it takes slightly longer for the result to become clearer.
Cette élection compliquée risque d'être un cliffhanger. Les partis politiques ont déjà ciblé les électorats pour remporter les élections de 2022. Ce dossier de SBS News de Shubha Krishnan, présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Pas toujours facile, toi et moi, toujours indivisible, toi et moi. Si le sensible vit encore, on se caresse, on se dévore. Une année impossible, cette année-là, ce virus invisible entre toi et moi.
Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, mais il est de retour, c'est Bernard Lavillier et ce nouveau single donc qui s'appelle « Toi et moi », un nouveau single dont la mélodie est empruntée au grand chanteur brésilien Seu Jorge. 13h45, on arrive dans la dernière séquence de notre émission. Je vais passer maintenant la parole à Bertrand Tungandamé qui va nous parler, en compagnie du professeur Corey Bradshaw, des super autoroutes aborigènes.
Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir de m'entretenir avec le professeur Corey Bradshaw de l'Université de Flinders à l'occasion de la sortie d'une étude qu'il a dirigée qui retrace les parcours de l'occupation du supercontinent de Saoul par les aborigènes il y a des milliers d'années de cela. Une étude intitulée « Mapping the Superhighways Traveled by the First Australians ». Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, professeur Bradshaw.
Ouais, merci.
C'est une étude sur les chemins, les super autoroutes que nos ancêtres aborigènes ont parcourues sur ce continent. Eh bien, parlez-nous de cette étude, parce que les révélations, c'est quand même inédite.
En fait, il y a deux études qui sont, on dirait, des articles sœurs. Le premier, en fait, c'est basé d'un modèle démographique humain. Ça veut dire qu'on a utilisé des données anthropologiques de dispersion ainsi que de fertilité, de survie. Et on a fait ça dans un gris spatial sur tout le continent Saoul, qui était en fait le continent d'aujourd'hui, joint avec la Nouvelle-Guinée. C'était un super continent, disons, qu'on appelle Saoul. Et avec les modèles climatologues qui prévoient le passé de la productivité du terrain, un peu comme on fait pour les projections de climat dans le futur, on fait exactement la même chose, mais dans le passé. Comme ça, on peut bâtir une espèce d'attente de combien de gens peuvent être soutenus par différentes parties du continent.
Sur ce super continent, il y avait quand même une population considérable. 6,6 millions de personnes ont navigué ce super continent.
Oui, c'est possible. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'était réalisé, mais c'était possible par rapport à la capacité de l'environnement de soutenir ce nombre de gens. Mais il faut s'en rappeler que le continent dont on parle maintenant, c'est 30% plus grand d'aujourd'hui, parce qu'il y avait les niveaux de la mer étaient beaucoup plus bas. Donc il y avait beaucoup plus d'air sur lequel le peuple pouvait vivre, ainsi que d'être joint à la Nouvelle-Guinée, ça veut dire ça donnait un plus grand air pour coloniser.
Donc une surface vraiment considérable, vous parlez même jusqu'à 10 millions de kilomètres carrés de ce super continent, c'est immense ça.
C'était immense, oui. Beaucoup plus petit, bah encore grand, mais plus petit par rapport à ce qui était pendant la plupart de la préhistoire aborigène en Australie.
Dans vos modélisations, vous avez effectué des possibilités, donc différents scénarios. Quel est le nombre exact des scénarios que vous avez étudiés? Quelles sont ses implications?
Ouais, ben dans le premier article, on a fait à peu près 120 scénarios, oui. Et on a fait chaque scénario plusieurs fois, des milliers de fois, oui. Pour savoir, avec des échantillonnages un peu aléatoires à l'intérieur de chaque paramètre. Ça veut dire, on a échantillonné la survie, on a échantillonné la dispersion, on a échantillonné la direction, on a fait des échantillonnages de probabilité pour avoir une espèce de réponse moyenne du patron de dispersion de l'entrée ainsi jusqu'à de remplir tout le continent, quoi. Et ce qui était aussi étonnant là-dedans, c'est que c'était pas juste la taille de la population possible, c'était aussi la vitesse avec laquelle ils ont réussi d'atteindre l'autre côté du continent et effectivement de coloniser tout le continent. C'était à peu près entre 150 et 200 générations humaines, qui veut dire à peu près entre 5 et 7 000 ans, qui est assez rapide pour colonisation complète.
Donc du point de vue historique, c'est rapide, c'est très rapide, mais du point de vue à l'échelle humaine, c'est tout petit.
C'est tout petit, mais en même temps, on parle d'il y a 60 000 ans, et, ou peut-être plus, avec un peuple qui n'avait pas les moyens comme on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas la technologie qu'on a, ils n'avaient pas de roues, ils n'avaient pas de forme d'agriculture comme telle. Donc, c'était hallucinant comment ils ont fait bien réussir pour survivre et même être vigoureux dans ce continent un peu dur.
Et vous avez identifié des superhighways. Parlez-nous de ces superhighways et est-ce qu'il y en a qui existeraient encore de nos jours?
C'est une très bonne question. En fait, ça c'est le deuxième article qui était plutôt conduit par ce qu'on appelle une espèce de, en anglais c'est le viewshed, c'est comment on peut voir des repères dans la distance sur l'horizon pour être capable de s'orienter vers une destination. Donc c'est l'élévation surtout, c'est un modèle d'élévation digitale qu'on a fait ainsi pour les terres d'aujourd'hui, mais aussi pour les terres qui sont sous l'eau maintenant. Et avec ça, on a ajouté une couche hydrologique pour savoir s'ils étaient les sentiers étaient proches des sources d'eau. Avec ça, on a ajouté la capacité de se déplacer dans le paysage pour un humain moyen. Oui. Et en tenant compte de combien d'eau il faut porter, combien on peut marcher sur une pente raide et des choses comme ça. Et on a fait une modélisation qui s'appelle de partout jusqu'à partout. From everywhere to everywhere en anglais. Oui. Et on a vraiment fait au-dessus de 150 milliards de sentiers possibles. Et pour une validation, on a regardé comment ces sentiers s'établissaient par rapport aux positions des sites archéologiques les plus anciens dans le continent. Et comme ça, on a trouvé qu'il y avait vraiment ces autoroutes super, on les appelle, qui probablement ont duré longtemps. Mais ça, c'est il y a 60 000 ans, plus. Donc, pour vraiment savoir que ça a duré aussi longtemps qu'aujourd'hui, il faudra peut-être refaire cette démarche pour plus tard dans la préhistoire australienne. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on regarde ces super autoroutes, on regarde que ça chevauche pas mal aux routes traditionnelles d'échanges aborigènes, ainsi que les routes d'échange de bétail quand les Européens sont venus.
Oui. Non, mais on se souvient que, bon, dans l'histoire de la colonisation de l'Australie, les aborigènes connaissaient très bien le terrain. Et on se souvient de l'histoire tragique de Flinders, qui, évidemment, est décédé parce qu'il ne connaissait pas le terrain. Et pourtant, s'il avait été en contact avec les locaux, il aurait pu... son expédition aurait pu survivre à la tragédie qu'ils ont connue, la faim, puisqu'ils ne connaissaient pas le terrain et ils n'avaient pas toutes les données.
Oui, il faut écouter aux experts.
Oui. Et là, vous avez fait une modélisation, justement, qui se base sur des données, des principes et des technologies modernes et tout. Est-ce que vous avez fait une corrélation aussi avec... le savoir et la mythologie aborigène qui lient intimement l'occupation du terrain, l'activité humaine et la spiritualité.
Oui, en fait, ça c'est la deuxième étape. Et on est en train de faire un plan, comment on peut faire ça aujourd'hui. Oui. C'est pas fait encore, mais maintenant, on a vraiment cette base pour tester si, pas juste les histoires, en fait, le grand rêve aborigène qu'on appelle, le dreaming, mais on va aussi regarder les patrons linguistiques et les un rapport entre langues différentes dans différentes régions de l'Australie. Et aussi, on peut regarder les semblances entre l'art dans des grottes pour savoir s'il y a des connexions, de similitudes. Et avec plusieurs couches comme ça, les histoires ou la culture, la spiritualité, l'art des grottes, ainsi que la linguistique, on pourrait peut-être tester si ces sentiers ont duré aussi longtemps que ça, et ça se chevauche, quoi.
C'est une étude qui ne se limite pas, dont la portée ne se limite pas seulement à l'Australie, étant donné que, donc, déjà, si on considère le continent que vous avez étudié, ce continent qui relie à la Nouvelle-Guinée aussi, mais il y a aussi des conséquences, des projections sur le continent africain qui peuvent être faites à ce sujet-là.
Tout à fait. En fait, j'ai déjà des archéologues qui me contactent avant que les articles sortent pour en fait appliquer cette méthodologie ailleurs dans le monde. Et l'Afrique et la sortie de l'Afrique vers l'Arabie Saoudite surtout, c'est un grand mystère comment ils ont s'orienté pour sortir et puis quand et où exactement et le climat dans ce temps-là, c'est un peu un grand mystère en ce moment, et je pense que ces techniques peuvent s'appliquer un peu partout. Aussi, l'entrée de l'humanité en Amérique du Nord par le détroit de Bering, et comment ils ont descendu la côte ouest de l'Amérique jusqu'en Amérique du Sud. Donc il y a plusieurs applications qu'on peut faire avec cette méthodologie.
Enfin, je dois rappeler que c'est une étude immense du point de vue scientifique, qui regroupe des scientifiques de plusieurs universités du monde entier, en fait.
Oui, et c'est vraiment transdisciplinaire. Ça veut dire on avait des anthropologistes, des archéologistes, des généticiens, des climatologues, des géomorphologistes, des hydrologistes, ainsi que les écologistes comme moi, et beaucoup de mathématiques, il faut dire, pour réunir toutes ces données, ainsi que toutes ces expertises ensemble. Et la seule façon de faire ça, c'était en fait avec la mathématique.
Professeur Bradshaw, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
C'était un grand plaisir, merci.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. Nous quittons sur ce morceau de la diva malienne Oumu Sangaré et un morceau qui s'intitule donc Sarama. Notre prochain rendez-vous en direct, ce sera samedi à 13h précise. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous écouter en podcast. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous abonner à notre chaîne SBS French sur votre appli audio préférée. Merci à Martine qui m'a accompagné aujourd'hui à la technique. Et merci bien sûr à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.